Chemin de vie.
Chers auditeurs, l'heure d'écouter votre rubrique Chemin de vie est arrivée. Nous avons le plaisir de vous présenter cette étude systématique de la Bible chaque jour, du lundi au vendredi, à cette même heure. Au micro, Jean,
accompagné de Heidi et de Daniel à la technique. De quoi Jacques Yostie, notre chroniqueur, va-t-il nous parler aujourd'hui ?
Comme une prophétie, cette suite du chapitre 2 de la première épître de Jean nous révèle la menace qui pèse déjà sur le monde actuel, l'Antichrist. En père protecteur, l'apôtre Jean nous met en garde contre les usurpateurs et les faux croyants.
C'est ce dont nous parlera Jacques Yostie dans un petit moment. Écoutons auparavant Johann Salvat avec ce titre « Les larmes du ciel ».
Face à l'orage, il regarde tomber les larmes du ciel coulant à ses pieds. Face au coup de foudre, au cri du tonnerre, il ne peut résoudre profond mystère. Mais à qui la faute? Qui a fait pleurer le ciel? Qui a fait rire l'enfer? Mais à qui la faute? Est-ce l'amour? Est-ce Dieu?
S'il existait une autre planète habitée et que l'un de ses habitants vienne nous rendre visite, je crois qu'il serait surpris de constater combien notre monde est chaotique à cause des injustices. Les philosophes, puis les scientifiques et maintenant certains religieux, font des contorsions dans tous les sens pour essayer d'expliquer le mal que les hommes commettent, mais leurs explications fumeuses sont ridicules. Le problème est que nous vivons dans un système de valeurs qui a exclu Dieu. Le péché est la réalité dominante de notre monde où il règne suprême. Bien qu'il se manifeste par des actions visibles, ses racines vont jusqu'aux profondeurs du cœur humain dépravé. Le péché pénètre l'esprit déchu, contrôle la volonté et les affections, souillant le pécheur dans chaque dimension de son être. Pourtant, même si les tentations proviennent du monde, on ne peut pas attribuer nos fautes à des influences extérieures et on ne peut pas dire non plus « c'est à cause du diable ». Je suis le seul responsable de mes actions coupables parce qu'elles proviennent de mes propres désirs mauvais. Le péché est latent dans le cœur de chacun de nous et prêt à se révéler à tout moment. Jésus a enseigné « c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme » que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, à l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. L'apôtre Paul ajoute son suffrage aux paroles du Christ quand il écrit « Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même ». L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. » Fin de citation. Le péché provient donc de la nature déchue de chaque être humain et celle-ci est issue de la désobéissance initiale d'Adam et Ève. Depuis qu'ils se sont rebellés à l'ordre divin, le péché est universel et personne n'échappe à sa tyrannie. Aux Israélites, le prophète Ésaïe a dit « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. » Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et le roi David écrit « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Je continue à lire dans le second chapitre de la première épître de Jean. « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde... la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Verset 16. En décrivant tout ce qui est dans le monde, l'apôtre en spécifie le contenu par trois expressions qui soulignent bien les apparences trompeuses du monde. Il y a d'abord la convoitise de la chair. Le mot « convoitise » est utilisé deux fois dans ce verset et une fois dans le suivant. Dans le Nouveau Testament, ce mot dénote souvent, mais pas toujours, des mauvais désirs. L'expression se rapporte ici à des pulsions et des appétits corporels illicites. Dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu ordonna à l'homme « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais, suite à la tentation du diable, le texte dit « La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. » Fin de citation. Ève, puis Adam, constatèrent que ce fruit était bon à manger, agréable aux yeux et précieux pour ouvrir l'intelligence. Nous avons ici les trois catégories de convoitise mentionnées par Jean. La chair, les yeux et l'orgueil de la vie. Quand Ève et Adam décidèrent de désobéir à l'Éternel en mangeant du fruit du seul arbre qui leur était interdit, ils plongèrent tous leurs descendants et donc la race humaine dans la mort. Jésus s'est trouvé dans une situation quelque peu analogue à Ève et Adam, car il a également été tenté par le diable sous les trois aspects mentionnés par Jean, la chair, les yeux, l'orgueil. Lorsqu'après avoir jeûné pendant 40 jours, Jésus eut faim, Satan lui suggéra « Puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Jésus étant affamé, il avait un besoin pressant de manger et il aurait évidemment pu transformer des pierres en pain ou en croissant. Le diable cherche donc à pousser Jésus à prouver qui il est et à en tirer profit en dehors de la volonté de son Père. La tentation réside dans la suggestion subtile d'agir indépendamment de Dieu pour satisfaire des besoins physiques légitimes. Satan n'incite pas Jésus à transgresser un commandement de la loi de Moïse, car il savait très bien que le Christ ne pouvait être tenté directement par le mal. Par contre, ce n'est pas une faute que de manger pour apaiser sa faim, mais le moyen d'obtenir la nourriture peut être une transgression des préceptes divins. Si j'ai faim et que je vole à l'étalage, je commets une infraction. Le diable incite donc Jésus à créer une belle miche de pain par son propre pouvoir. Mais le Seigneur a résisté parce que le moment pour lui de satisfaire sa faim n'était pas encore venu. Sa réponse au tentateur montre sa parfaite soumission à la volonté du Père et à son plan pour lui. Jésus a répondu au diable, « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » En d'autres mots, Dieu ne m'a pas encore donné la permission de manger, et en attendant, c'est sa parole qui est ma subsistance. La deuxième convoitise que mentionne Jean est celle des yeux. Bien que ce soit des dons de Dieu qui nous permettent de voir la splendeur de sa création, les yeux sont aussi des fenêtres grandes ouvertes par lesquelles les tentations qui sont tout autour de nous peuvent entrer, pénétrer dans le fin fond de mon âme et attiser ma nature pécheresse. Certaines tenues vestimentaires suggestives, les publicités et les photos osées, la luxure qui est étalée par la télé et les films nous incitent à nous laisser aller à des pensées et actions qui sont contraires aux lois morales de Dieu. Je deviens alors envieux, avide comme une éponge, et je convoite. La femme de Lot a eu les yeux chargés de regrets à cause de toutes ses possessions qui partaient en fumée. Alors, elle n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil coupable qui lui a valu d'être pétrifiée sur place. Lors de la conquête du pays de Canaan, un Israélite a vu des richesses qu'il s'est accaparées alors que l'Éternel avait strictement interdit de prendre quoi que ce soit. Comme sa famille était de mèche avec lui, ils ont tous été lapidés. De sa résidence royale, David a contemplé une très belle jeune femme, toute nue, qui prenait son bain. Il a ordonné qu'on la lui amène. Vous devinez la suite, mais le pire est que ce premier péché a conduit le roi à une action terrible, puisqu'il a fait assassiner le mari gênant. Cependant, David a chèrement payé ses fautes pendant le reste de ses jours. Quel malheur qu'il n'ait pas observé le pacte que Job avait conclu avec ses yeux et qui était de ne jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Il est encore plus important d'observer strictement cette règle de nos jours que du temps de Job, car aujourd'hui, dans les pays industrialisés, les femmes portent souvent des vêtements qui moulent le corps ou des jupes courtes flottantes avec des corsages plongeants. La mode est faite pour séduire et aguicher la convoitise. Jésus a dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Jésus aussi a été tenté par les yeux, mais d'une toute autre manière. Le texte dit que le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Si le Seigneur avait possédé une nature de péché comme moi, il aurait pu accepter la proposition de Satan et se laisser séduire par la convoitise des yeux. Il serait alors devenu le maître du monde sans passer par la croix. Mais Jésus a répondu au tentateur, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » La troisième catégorie de convoitises qui permettent à la tentation d'avoir accès à notre âme est l'orgueil de la vie. Cette expression est littéralement la prétention de la vie humaine. Le mot pour prétention n'est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament. Cette forme d'orgueil est une attitude arrogante, une sorte d'exaltation de soi qui est à l'origine de tous les autres péchés, y compris la convoitise de la chair et des yeux. Les croyants ne devraient jamais se laisser aller à une telle mondanité. Jésus aussi a été confronté à cette tentation. Le texte dit que le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet ». Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Si Jésus avait suivi cette suggestion, son geste aurait présumé de la protection de Dieu, ce qui lui aurait d'emblée acquis un très grand prestige. Il aurait impressionné d'un coup tout Israël, parce qu'il y avait beaucoup de monde à Jérusalem, étant donné qu'on y célébrait l'une des trois fêtes où tous les hommes valides doivent obligatoirement se rendre. Mais au lieu de mordre à l'hameçon, le Seigneur a répondu au diable, « Il est aussi écrit, « Tu ne forceras pas la main du Seigneur, ton Dieu. » Je continue maintenant le texte de 1 Jean. « Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. » Verset 17. Le verbe pour « passe » est un présent. Le monde en tant que système d'idéologie opposée à Dieu est en train de passer parce qu'il est déjà engagé dans un processus d'autodestruction, tout comme chaque personne d'ailleurs. La vanité est le lot quotidien de la grande majorité des êtres humains, qu'ils soient riches ou pauvres. Bien sûr, on remarque davantage les hommes politiques car ils cherchent le pouvoir par tous les moyens, ou les traders parce qu'ils n'ont qu'un seul but, engranger un maximum d'argent. Pendant des siècles, les courtisans et les courtisanes des cours royales européennes passaient le plus clair de leur temps à soigner leur tenue vestimentaire et leur parler pédant uniquement pour paraître. Mais que reste-t-il de leurs prétentions ridicules? Des pages d'histoire et des films où on se moque d'eux? Par contraste, Jean a déjà dit que le croyant ne doit pas aimer le système de ce monde parce qu'il est incompatible avec l'amour pour Dieu. Maintenant, il ajoute que cette création disparaîtra. Les morts vivants du monde sont destinés au jugement, alors que ceux qui vivent et marchent avec Dieu n'auront pas de fin puisqu'ils ont l'éternité devant eux. Je continue le texte. « Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. » Verset 18. Le mot pour « enfant » se rapporte à de jeunes enfants immatures et donc vulnérables qu'il faut mettre en garde contre les dangers qui les guettent. La dernière heure correspond à ce que d'autres auteurs du Nouveau Testament appellent les derniers temps ou une expression équivalente. Il s'agit de cette parenthèse historique que nous vivons actuellement, qui a débuté avec la venue de Jésus et qui s'achèvera par son retour glorieux. Cette période est caractérisée par une superposition du monde à venir qui est déjà là et du monde présent qui n'a pas encore disparu. Aujourd'hui, ceux qui croient en Jésus-Christ reçoivent le pardon de leurs fautes et la vie éternelle, mais la manifestation pleine et entière de leur salut reste limitée parce que le péché et la mort règnent encore. Cependant, le compte à rebours de la fin des temps est déjà enclenché et la scène est prête pour le drame final de l'histoire qui verra l'instauration du règne de 1000 ans de Jésus. Le mot « antichrist » qu'utilise Jean n'apparaît que dans ses épîtres. Cependant, on retrouve cette idée dans toutes les Écritures. « Antichrist » est la translittération du mot grec « antichristos » qui veut dire « contre » ou « à la place de Christ ». Ce mot désigne quiconque s'oppose au Seigneur, cherche à le supplanter ou le contrefait en le représentant d'une manière fausse. C'est bien sûr ce que font toutes les sectes qui créent un autre Christ à leur propre image. Un antichrist est dangereux parce que c'est un assemblage d'hypocrisie et d'hérésie doctrinale, un loup déguisé en brebis qui s'infiltre dans l'Église pour tromper les personnes mal affermies. Mais si les personnes trompées sont de véritables croyants, elles finiront par s'apercevoir de la supercherie et reviendront dans le troupeau de Dieu. Les Écritures enseignent que pendant les 7 années de tribulation à venir, un homme apparaîtra et sera l'ultime antichrist. Au fil des siècles, on a beaucoup spéculé au sujet de l'identité de ce sinistre individu et on a proposé de nombreux personnages, surtout des conquérants cruels et assoiffés de sang, mais en vain. Cet antéchrist à venir sera un homme imposant, intimidant, d'une intelligence et d'une éloquence supérieures. Il possédera de grandes connaissances dans tous les domaines et deviendra le chef politique du monde. Cet homme impie, appelé « fils de la perdition », sera voué à la violence et à la destruction. Il sera si convaincant à titre d'allié et de libérateur qu'Israël signera un pacte avec lui pour qu'il devienne son protecteur. Mais ensuite, il se retournera contre la nation juive et montera sur le trône du sanctuaire du temple reconstruit, et il blasphémera Dieu en se faisant passer pour lui aux yeux du monde. La venue de cet homme maudit sera précédée par de nombreux hérétiques, et les antichrists dont parle Jean en font partie. Jésus a averti ses disciples en leur disant « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. De faux Christs surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges, au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. » Je continue le texte de 1 Jean. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous, mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Verset 19. Dieu a toujours permis à des imposteurs d'exercer leur influence nuisible et corruptrice dans les assemblées de croyants afin de les épurer, en attirant à eux les faux frères. Ceux qui abandonnent ainsi la foi véritable prouvent leur vraie nature. Au final, ces sinistres individus servent la cause de Dieu en purifiant son peuple. Vers la fin du 1er siècle, certains rejetaient déjà l'incarnation. Ils prônaient un autre Christ, un être surnaturel et sublime, qui serait descendu en esprit sur un homme du nom de Jésus lors de son baptême pour l'habiter temporairement. Il aurait alors manifesté une puissance et une sagesse extraordinaires, mais l'aurait quitté juste avant sa mort. Quelques décennies plus tard, cette perception hérétique de Jésus devint l'une des principales doctrines du gnosticisme. Dans sa deuxième épître, Jean écrit « Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'Antichrist. » Aujourd'hui, quand on pousse les gens dans leur retranchement, on s'aperçoit que la majorité d'entre eux considèrent Jésus comme un être extraordinaire, un prophète et tout ce que vous voudrez, sauf Dieu fait homme. Et ceux qui disent croire en la divinité de Jésus la diluent en lui adjoignant d'innombrables autres intercesseurs. Les hérésies du 1er siècle survivront tant que Satan sera le prince de ce monde.
Quand tu te sens seul et tu vois que la vie est dure, tu te dis, y a-t-il un chemin où je peux me diriger? Où suis-je? Que dois-je faire? Je ne sais pas, je me sens perdu. Que dois-je dire? À qui parler de tout ça? Seigneur, tu es là pour moi. Tu me guides dans mes pas, tu réponds à mes questions, tu es mon plus grand ami, tu es fidèle à tes promesses, et tu tiens toujours parole, mon amour est bien placé en toi, Jésus. Absorbe toute ta joie de vie. N'oublie pas que Jésus te tient la main.
Jésus,
garde espoir, garde l'envie, garde la foi, surtout garde Jésus-Christ. Car Dieu se révèle à travers toi. Guide dans mes pas, tu réponds à mes questions, tu es mon plus grand ami, tu es fidèle à tes promesses, et tu tiens toujours parole, mon amour est bien placé en toi, Jésus. Quand tu te sens seul et tu vois que la vie est dure, tu te dis, y a-t-il un chemin ?
Séverine chantait à l'instant, tu es là.
La pendule nous rappelle que notre chronique arrive bientôt à son terme pour aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes pour vous communiquer ces infos. Toutes nos rubriques sont disponibles sur notre site internet, chemindevie.info, avec chemins au pluriel et le tout en un seul mot. chemindevie.info.
Sachez que pour recevoir gratuitement une copie de ce texte ou une Bible, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone pendant les heures de bureau qui est le suivant. 0820 200 628. C'est un numéro Indigo. 0820 200 628.
Espérant vous retrouver demain, nous vous disons au revoir.
À demain.